Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Métropolez-vous. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de démocratie participative et de participation citoyenne, des expressions, des concepts que reprennent et essaient de mettre en œuvre la plupart des collectivités, quelle que soit leur taille. Je rappelle que depuis plusieurs années, il existe des instances de participation citoyenne dans la métropole toulousaine et un certain nombre d'entre vous y contribuent et s'y engagent. Depuis les dernières élections municipales, la participation citoyenne est devenue une mission métropolitaine. Il s'agit de l'organiser en impliquant de plus en plus les citoyens de Toulouse Métropole dans la gestion de la cité et les prises de décision. Un document très important a récemment été dévoilé, rendu public pour servir de référence dans ce domaine, la charte de la participation citoyenne de Toulouse Métropole. Elle a été patiemment élaborée lors des deux dernières années, en faisant elle-même l'objet de nombreuses discussions et concertations avant d'aboutir au document final. Je vous propose de la découvrir au cours de cette émission qui va nous permettre également de rappeler comment fonctionne la participation citoyenne dans la métropole toulousaine. Qui dit nouvelle mission de Toulouse Métropole dit vice-présidence chargée de celle-ci. La vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de la participation citoyenne est mon invitée. Elle s'appelle Marwa Bouzaïda. Elle est aussi conseillère municipale déléguée à la mairie de Toulouse. Bonjour madame la vice-présidente et merci d'être fidèle au rendez-vous.
Merci beaucoup, bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci à vous pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs.
Nous allons d'abord repréciser le contenu de votre délégation et donc, de manière générale, ce que recouvre le concept de participation citoyenne. Est-ce que vous pouvez rappeler la définition et les principaux objectifs de cette démarche ?
Donc, oui, c'est une délégation qui a été créée après les élections en 2020. La création en fait de cette délégation de vice-présidence est un acte fort qui a pour but de porter une action publique en matière de participation citoyenne. L'objectif est de faciliter le dialogue avec les citoyens pour la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions portées par la métropole. La démocratie à l'échelle métropolitaine doit se renforcer par un dialogue permanent avec les habitants de nos territoires, les usagers aussi de nos services, et développer une association entre les habitants et les acteurs locaux pour que ça devienne une condition préalable à toute démarche de nos projets structurants à l'échelle métropolitaine.
Et c'est pour ça que Jean-Luc Moudenc a souhaité en faire une mission au niveau métropolitain, parce que ça n'existait pas auparavant. Cela dit, ça existait évidemment dans certaines communes, dont Toulouse.
Exactement. Il existait en effet des instances participatives au niveau de Toulouse, mais aussi des communes de la métropole. Mais l'idée que ça soit porté à l'échelle métropolitaine, c'était pour renforcer les actions, les multiples actions de concertation qui étaient menées jusque-là et qui relevaient justement de ces projets de compétences métropolitaines. Et l'idée, c'est de rapprocher les habitants au mieux de la métropole qui voyait cette collectivité un peu lointaine de l'échelle communale.
Et vous, votre rôle en tant que vice-présidente, c'est justement de fédérer toutes les actions qui existent déjà, toutes les énergies qui sont déployées dans le cadre de la participation citoyenne.
Exactement. Comme je vous l'avais annoncé lors de mon premier passage, c'était de créer cette charte pour mettre un cadre, mais surtout mon but et l'enjeu de cette participation citoyenne métropolitaine, c'est de renforcer le dialogue entre la métropole et les maires de communes, mais surtout d'impliquer, comme je l'ai dit, les citoyens et nourrir la prise de décision des élus. C'est très important de s'enrichir, de se nourrir des avis des citoyens et des usagers.
Eh bien voilà déjà de nombreuses informations et quelques précisions importantes concernant la participation citoyenne en général, dans la métropole toulousaine en particulier. Nous allons poursuivre notre échange dans quelques minutes après le flash d'informations de Corinne Saint-Félix. L'actualité métropolitaine, c'est maintenant. Métropolez-vous, l'actu. La première information de ce flash concerne la troisième ligne de métro. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours qui avait été déposé contre elle.
Les travaux autour de la future troisième ligne de métro vont pouvoir se poursuivre. Le coup d'envoi des travaux a d'ailleurs eu lieu cette semaine. Le référé déposé par l'association Les Amis de la Terre a été rejeté vendredi 9 décembre par le tribunal administratif de Toulouse. Deux principaux points étaient mis en avant par l'association: l'incompatibilité du projet avec le plan de déplacement urbain de 2012 et l'existence de solutions alternatives satisfaisantes permettant d'éviter d'avoir à déroger à l'interdiction de porter atteinte à des espèces protégées. Pour la juridiction administrative, il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de l'autorisation environnementale accordée à la future troisième ligne de métro.
Vous le savez, la crise énergétique que nous traversons a de multiples conséquences, entre autres pour Tisséo, le syndicat mixte des transports toulousains, dont la facture explose littéralement.
Cette forte hausse liée à l'augmentation des coûts de l'énergie était attendue. La facture avait été évaluée à 24 millions d'euros en septembre contre 6 millions d'euros pour le contrat actuel qui court jusqu'à la fin 2022. Mais la facture va être encore plus élevée que prévu et s'élèvera donc entre 25 et 30 millions d'euros, ce qui va nécessiter une rallonge financière de Toulouse Métropole au budget du syndicat mixte des transports. Les prochains achats énergétiques de Tisséo se feront pour une courte durée afin que dans le futur, le syndicat mixte des transports puisse bénéficier d'éventuelles mesures de limitation des coûts de l'énergie au niveau européen.
Nous terminons avec une information environnementale. 4200 tonnes de poudre à la nitrocellulose vont être prochainement dépolluées.
Le projet de réhabilitation des ballastières à Toulouse, un des sites les plus pollués de la ville rose, suscite inquiétude et interrogation depuis plusieurs décennies et la question revient régulièrement sur le devant de la scène. Sous cet espace qui regroupe 4 étangs figurent 4200 tonnes de poudre à la nitrocellulose immergées depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Ces poudres n'explosent pas à l'air libre et sont sans risque pour les riverains comme pour l'environnement. Après plusieurs commissions et une dernière réunion il y a plusieurs jours, la préfecture rappelle l'objectif majeur qui est de permettre la réhabilitation tout en assurant la complète sécurité des interventions, tout en préservant la faune et la flore.
C'était le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix que je remercie au passage. Marwa Bouzaïda, vous venez de l'écouter comme nous tous. Est-ce que vous voulez commenter une des informations? Peut-être la première,
hein,
le recours donc qui avait été déposé contre la troisième ligne de métro a finalement été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse.
Je me réjouis de cette information. Honnêtement, j'étais impatiente pour que les travaux puissent reprendre sur la troisième ligne de métro. Cet équipement est primordial dans l'offre multimodale et de transport en commun que nous proposons à l'échelle métropolitaine. Il y a des enjeux environnementaux et climatiques impératifs et je suis ravie de savoir que les travaux reprennent et que cette ligne de métro avance et que le planning, rétro-planning, il va être peut-être respecté, je l'espère en tout cas.
Merci d'avoir bien voulu réagir à l'actualité métropolitaine de la semaine et donc à cette information concernant la troisième ligne de métro. Nous allons reprendre maintenant le fil de cette émission consacrée, je le rappelle, à la démocratie participative et à la charte de la participation citoyenne de Toulouse Métropole.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec notre invitée Marwa Bouzaïda, conseillère municipale déléguée à la mairie de Toulouse, vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de la participation citoyenne. Avant de parler de la charte elle-même, petit rappel concernant les instances permanentes ou ponctuelles qui relèvent de la participation citoyenne aujourd'hui au niveau métropolitain, mais aussi dans certaines communes de la métropole. Il y a des conseils citoyens et il y en a 12, 9 à Toulouse, mais il y en a dans d'autres communes.
Exactement. Donc, à l'échelle métropolitaine, nous avons 12 conseils citoyens, comme vous l'avez rappelé, 9 à Toulouse, 1 à Colomiers, 1 à Blagnac, 1 à Cugnot. Ces conseils citoyens ont été renouvelés tous en 2021. Ils comptent au total 153 membres, dont 110 habitants. Il faut dire que dans les membres, on a 43 structures locales. Ce sont soit des associations, soit des entreprises de proximité qui agissent dans ces quartiers. Je précise que les conseils citoyens sont autonomes et indépendants des pouvoirs publics. Donc, ils reçoivent une dotation financière de la part de l'État, de Toulouse Métropole et des communes et partenaires. Et ils peuvent aussi faire appel à des associations pour les aider dans l'animation de leurs réunions. Et donc, ils disposent de moyens financiers qui leur permettent de fonctionner d'une façon autonomes et selon les besoins de leur quartier et qui, eux, identifient. Donc, ils sont plutôt libres dans les actions qu'ils souhaitent mener. Peut-être je vous citerai quelques-unes. Hein. Certains conseils citoyens, particulièrement dynamiques, hein, sont à l'origine d'actions partenaires qui a permis de remobiliser des bénévoles, comme par exemple organiser une fête de quartier, aider les jeunes à trouver des stages. Ça a été un sujet à Soupetard, par exemple. Embellir une place publique. Et aussi, ils sont toujours une source pour nous faire remonter des besoins des familles par rapport à l'éducation des enfants. On en a quelques-uns qui participent à des conseils d'école et qui peuvent en effet nous aider, nous les élus référents dans les écoles, à pointer des dysfonctionnements ou des besoins localement. Ils sont aussi consultés sur des projets structurants liés à l'urbanisme, à l'environnement dans les cœurs de quartier et leurs lieux de résidence.
Tout ça relève beaucoup de la politique de la ville et du contrat de ville. Hein.
Exactement, et oui, j'allais le préciser, c'est en effet des conseils citoyens, on entend citoyens de participation citoyenne, mais je précise que c'est bien l'État qui remunère et qui les aident bien sûr à fonctionner avec la Toulouse Métropole, ils dépendent totalement du contrat de ville.
Il y a d'autres instances de participation citoyenne, celles-ci sont emblématiques, mais il y a par exemple tout ce qui est comité, commission de quartier, ça relève de la participation citoyenne.
Absolument, et là on est à l'échelle communale, donc à Toulouse on a les commissions de quartier, on a le bureau de quartier dans lequel siège le conseil citoyen quand le quartier est quartier politique de la ville, on a les conseils des résidents étrangers, on a les conseils municipaux des enfants, on a les conseils des jeunes, on a aussi le conseil de fraternité pour tes par M. Jean-Paul Bouche qui concerne toutes les cultes, mais aussi à l'échelle métropolitaine, on a d'autres villes qui disposent d'instances. Donc à Aussonne, par exemple, ils ont un conseil municipal des enfants. À Colomiers, ils ont un comité de quartier, de concertation avec, bien sûr, en lien avec le conseil citoyen. Villeneuve-Tolosane, pareil, ils ont un collectif d'habitants. À Saint-Aurens, ils ont fait une initiative aussi avec un comité de citoyens. Donc il y a des instances, mais elles sont à l'échelle communale.
Et à l'échelle métropolitaine, il ne faut pas oublier, bien sûr, le Conseil de développement, le CODEV de Toulouse Métropole, qui, lui, est aussi typiquement une instance de participation citoyenne.
Totalement. Et le CODEV, donc le Conseil de développement, a été, pendant notre démarche, nous, pour la charte métropolitaine, un partenaire. Et en effet, il était membre de groupe de travail, mais son rôle ne se limitait pas à ça. Il nous a accompagnés sur toutes les phases de l'élaboration de la participation citoyenne et on s'est appuyé beaucoup sur son expertise d'usage et les experts qui composent ce CODEV, qui ont été co-écrivains et participants à la charte.
Lorsque Jean-Luc Moudin vous a confié la vice-présidence de la participation citoyenne au niveau métropolitain, je suppose qu'il vous a donné une feuille de route. L'essentiel de cette feuille de route, est-ce que c'était justement élaborer cette charte de la participation citoyenne de Toulouse Métropole ?
Il m'a donné une feuille de route qui était assez précise, je l'avoue. Il était conscient de toutes les démarches et les initiatives qui étaient prises par les directions métiers à l'échelle métropolitaine. Ceci dit, chacune a été sensible au sujet à un degré différent. Donc l'idée de monsieur le maire président, c'était de structurer cette participation citoyenne, d'en mettre un cadre et surtout d'être, comme vice-présidente, un pôle ressource aux directions pour pouvoir alimenter leurs réflexions, les accompagner dans un projet et dans une réflexion sur la place de la participation citoyenne dans tel ou tel projet structurant de la métropole et les outiller, c'est-à-dire faire un portefeuille, un référentiel d'outils qui sont à disposition des agents et des communes pour qu'elles puissent mener au mieux une concertation et qu'on puisse avoir une méthodologie claire et avec des valeurs et des principes transparents.
On en arrive donc à ce document, à cette charte de la participation citoyenne de Toulouse Métropole qui a donc été dévoilée il y a quelques semaines. Peut-être tout d'abord, avec qui a-t-elle été élaborée ? Parce que c'était un travail de longue haleine. Quelles ont été les instances, les partenaires, les services et sans doute les élus qui ont participé à sa conception ?
Alors, pour participer à la charte, nous avons donc proposé une première délibération en février 2021, suivie d'une autre en juin 2021 pour mettre en place ce groupe de travail qui allait chapeauter et superviser le travail de l'élaboration de la charte. Dans ce groupe de travail, toutes les sensibilités politiques ont été représentées. Donc, on avait une représentativité de l'Assemblée qui est Toulouse Métropole. Maintenant, dans les élus. Par exemple, nous, la charte, on l'a travaillée au départ sur trois piliers. Le pilier élu, celui des agents et enfin les citoyens. pour les élus. Donc, monsieur le maire, président, nous avons adressé une lettre pour inviter toutes les communes à nous désigner l'élu qui est en charge de la participation citoyenne, démocratie participative, ce que vous voulez, à l'échelle communale pour qu'ils puissent se joindre à nous pour ces 4 temps de travail. Et donc, pour les communes qui ont participé sur ces 4 séminaires élus, la majorité, ce sont des élus non métropolitains, mais qui ont cette délégation dans leur portefeuille communal. Ensuite, on a eu 27 communes sur le 37 qui ont pu participer à ces 4 temps séminaires. Pour les agents, il y a eu un grand atelier de travail qui a regroupé à peu près 150 agents qui représentaient pas moins de 30 directions métiers et 8 ou 7 communes, c'est-à-dire le DGS a préparé, pareil comme monsieur le maire pour les maires, le directeur général des services a invité ses homologues des communes à faire que des agents en charge de la participation puissent nous rejoindre dans ce travail et participer à ce grand atelier déjà pour les agents. Et donc, on a eu 7 communes comme Aussonne, Colomiers, Blagnac qui ont envoyé des agents, plus les autres qui représentaient à peu près une 30aine, comme je vous ai dit, de directions services. Et pour le volet citoyen, ce qu'on a fait, c'est qu'en total partenariat avec le CODEV, on a organisé une première conférence avec Alain Faure. Ensuite, on a fait un questionnaire qui a regroupé à peu près 1200 réponses. Et celui-là, et il faut préciser que toutes les communes ont joué le jeu parce que et ce questionnaire, il était bien évidemment sur la plateforme Je participe Toulouse.fr, mais je vous dirai un mot après. Et donc, la commission de communication a relayer l'information par chaque direction de communication de chaque commune. Et c'est pour ça, sur notre questionnaire, on a eu une participation de citoyens que représentaient les 37 communes. Et on a fini par un atelier, donc pas loin d'ici, à Saint-Subra, organisé par toujours le CODEV, mais avec l'appui de ETIX. Et on a donc collecté toutes les données. Une fois que donc on est sorti entre 4 séminaires élus, 3 temps de travail agents, 3 temps citoyens, on a demandé maintenant à tous ces participants, selon leur statut, s'ils veulent bien, maintenant passer à la partie rédactionnelle qui s'est passée en 4 temps. Et donc, le comité de rédaction était composé d'un tiers élu, un tiers agent et un tiers citoyen. Et on a travaillé pendant 4 temps de mise en ligne systématique de production qui était modifiable et pour être donc présenté la charte à monsieur le président et au groupe de travail. Et enfin, la faire adopter au Conseil métropolitain le 20 octobre et qui a donc eu l'unanimité de vote. Et j'en suis ravie.
Donc, une large consultation et puis plusieurs étapes qui ont permis d'élaborer ce document dévoilé effectivement le 20 octobre avec l'objectif de développer, si je résume, de promouvoir les démarches de participation citoyenne à l'échelle intercommunale, à l'échelle métropolitaine. Les grands axes de cette charte, quelles sont ses principales orientations ?
Alors oui, pour résumer, parce que le document est fait un certain nombre de pages.
Il est consistant. Oui.
Il est consistant, même si on a essayé vraiment de l'alléger au mieux. Mais pour donner les 4 grandes orientations donc, de ce document, le premier qui était unanime, comme je l'ai dit, entre citoyens, élus et agents, c'est tout d'abord développer l'apprentissage de la citoyenneté et l'intérêt pour la chose publique. Donc, identifier les instances, les missions des collectivités, faire un travail d'aller vers, un peu d'acculturation, de la pédagogie. Le deuxième axe, c'était utiliser des outils diversifiés pour permettre à tous de mieux s'informer et de participer. Donc, vraiment faire un bouquet d'outils que nous sommes maintenant en mesure de proposer aux citoyens, aux agents, mais aussi bien évidemment aux élus volontaires pour pouvoir conduire des concertations sur leur terrain. La troisième orientation, c'est renforcer au bénéfice des citoyens l'expertise des agents et des élus sur la participation citoyenne. Notre but aussi, c'est que des agents formés et outillés seront encore plus performants pour une conduite de concertation. Les élus aussi doivent être sensibilisés et doivent être en mesure d'avoir la possibilité de se former aussi à cette question-là. Je le répète toujours, à chaque fois qu'on me le demande, la participation citoyenne, c'est un métier, c'est une formation à la faculté, ça ne s'improvise pas. Vraiment, il faut, pour qu'on arrive à un résultat pertinent, il faut vraiment respecter un certain nombre d'étapes. Et enfin, la quatrième orientation, c'est rendre compte et évaluer la participation. Il faut faire, et ça, c'est tout le monde était unanime, un retour systématique vers les participants à chaque fois qu'on fait une concertation. On ne vient pas vous demander votre avis et puis vous n'en avez plus aucune nouvelle. La restitution restitution doit être systématique chaque fois qu'on demande l'avis ou l'expertise des citoyens, et aussi l'évaluation systématique. Quand on mène une concertation, il est très important d'avoir des retours, donc les feedbacks, et de collecter. C'est bien aussi de croiser nos expériences et de dire ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. On parle souvent de tirage au sort. Moi, j'étais dernièrement aux Journées européennes de la participation citoyenne à Rennes. C'est vraiment un système qui ne marche pas. Il n'y a pas une honte à dire que non. Moi, personnellement, je ne voulais pas de tirage au sort parce que je voulais vraiment que ça fasse quelque chose qui fédère et que je sois sûre que tout le monde va avec moi jusqu'au bout pour aboutir à un travail collectif. C'est très aléatoire et j'avoue que cartésienne comme je suis, je voulais assurer une bonne conduite de la démarche. Donc vous voyez, c'est les quatre grandes orientations qui ont été arrêtées donc par les trois piliers.
Est-ce qu'il y a, je suppose en tout cas, il y a un catalogue, c'est peut-être pas le terme, d'action qui a été défini donc pour faire avancer cette participation citoyenne? On ne va pas toutes les détailler, mais il y en aurait combien aujourd'hui des actions que vous avez identifiées et que vous allez suivre?
Pour faire progresser la participation citoyenne, on a souhaité mettre un comité de suivi pour justement définir ces actions et définir les critères qui nous permettront justement de se dire cela, ça marche, celui-là n'a pas abouti, telle initiative. Et donc là, le comité de suivi s'est réuni mardi dernier. On s'est donc partagé en quatre groupes selon les quatre orientations et chaque groupe était appelé à proposer entre quatre et cinq actions. Et donc voilà, je pourrais vous donner vraiment un récap d'ici le mois de mars parce que là, on va définir vraiment le contrôle. Mais je dirais entre une 15 à 20 actions qui seront mesurables, quantitatives et qualitatives pour qu'on puisse assurer le suivi de cette charte.
Donc vous avez constitué un comité de suivi pour évaluer l'amélioration des pratiques de participation citoyenne à travers cette quinzaine, vingtaine d'actions. Il va se réunir à quelle fréquence? Ça va être trimestriel?
Exactement, ça va être trimestriel. On se réunit à raison d'une fois par trimestre. Ce comité de suivi est composé d'agents, d'élus et de citoyens co-écrivains. Donc, on a proposé au comité de rédaction s'il y en avait des volontaires qui se rejoignent à nous. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, une bonne partie nous a rejoints. Les autres, ils voulaient rester informés. Donc, ils sont dans la boucle. Et toujours dans cette dynamique partenariale, je le répète, avec le CODEV qui nous épaule beaucoup dans cette démarche-là.
Alors, vous avez prononcé un mot important, je pense, c'est sur la base du volontariat. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez besoin de personnes volontaires et impliquées, vraiment impliquées à fond dans cette démarche de participation citoyenne, qui ne sont pas là seulement pour dire j'y suis, ils sont vraiment moteurs, tous.
Absolument. Et j'aimerais aussi préciser, c'est des personnes où l'intérêt général prime sur la spécialité, parce que, bien évidemment, ils peuvent avoir une expertise sur, par exemple, l'urbanisme ou un penchant vers l'environnement. Mais moi, ce que j'ai remarqué, que ces personnes-là, qui sont pour une grande partie engagées dans des instances citoyennes, même les agents dans leur vie personnelle, ils sont engagés. Ben, une fois qu'on s'est trouvé autour de la table, c'est l'intérêt général qui a primé et c'est vraiment le principe de participer et de le structurer qui les motive. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai toujours été ravie que chaque fois qu'on faisait une commission de rédaction, de voir toutes les tables remplies parce que c'est des gens qui sont vraiment motivés pour l'intérêt général.
Et voilà, alors, l'intérêt général, justement, pour que tout le monde vise cet intérêt général, je suppose que vous avez veillé à ce que toutes les sensibilités politiques soient rassemblées, réunies dans ce comité de suivi.
Absolument. Donc là, d'ailleurs, même dans mon comité de suivi, parmi les élus qui ont proposé d'être dans ce comité, nous avons ma collègue de l'ONAGUE, Madame Envaux de l'opposition municipale toulousaine, Madame Anna Faure qui nous vient de Cugno et qui n'est pas du même bord politique que monsieur le maire président, et Castelginès qui est elle plutôt du bord de notre bord à nous, mais c'est pour montrer qu'en effet c'est une représentativité politique totale et le groupe de travail de toute façon l'illustre.
Voilà. Et la charte a fait l'objet d'un large consensus à l'intérieur du conseil communautaire de Toulouse Métropole, toutes sensibilités politiques confondues. Exactement. Première réunion, c'était le 6 décembre, donc vous allez vous réunir tous les trois mois et je crois qu'il y a comme ça une espèce de feuille de route jusqu'au 6 décembre 2024 sur deux ans.
Exactement, qui fera l'objet bien évidemment d'un rapport qui sera présenté au conseil métropolitain et qui suit bien évidemment toujours dans l'esprit de restituer et d'être transparent. La clarté et la transparence faisaient partie des premières exigences de notre questionnaire citoyen. Donc on essaye d'être le plus transparent possible et de rendre public ça. C'est, je l'ai dit, la charte n'est pas gravée dans le marbre, c'est un document évolutif et on est bien évidemment, on entend parfaitement le nourrir.
Donc le comité de suivi va produire un rapport annuel, ce sera annuel, des démarches de concertation citoyenne.
Exactement, il sera comme un observatoire de ce qui a marché, où est-ce que, par exemple, on propose une fresque aux agents, est-ce que ceci a pu être mis en place, est-ce que les communes ont pu faire appel aussi aux outils que je leur propose. Je leur ai proposé, par exemple, en parallèle avec la charte, on a travaillé à développer les outils, et par exemple, la plateforme de participation citoyenne Je participe, .toulouse.fr a évolué, et elle est devenue à l'échelle métropolitaine, donc c'est je participe métropole.toulouse.fr, et on peut même la proposer aux communes, c'est-à-dire au-delà qu'elle couvre les consultations métropolitaines, les communes peuvent avoir, donc moyennant bien évidemment une facturation mais minime, y figurer leur concertation. Et la première d'ailleurs qui a fait appel à nous, c'est Pibrac pour leur budget participatif qui a été clôturé, Blagnac actuellement, Aussonne le mois prochain. Donc ça permet aussi à amener une autre, des outils de valeur aux communes pour qu'elles puissent mener leur concertation. Et enfin, on a mutualisé l'accord cadre. On propose donc aux communes et volontaires de faire appel à notre accord cadre pour pouvoir donc avoir des assistantes à maîtrise d'ouvrage pour la conduite de leur concertation.
Oui, parce qu'une des raisons d'être aussi de ce comité de suivi, c'est pas seulement d'évaluer, mais c'est aussi d'aider, de faire sauter les obstacles, les freins, lorsqu'il y en a, pour faire avancer les actions qui ont été définies. Eh bien, nous allons devoir conclure cette émission. Merci beaucoup d'en avoir été l'invité, Marwa Bouzaïda, et de nous avoir présenté très clairement, ma foi, la charte de la participation citoyenne de Toulouse Métropole. Un document de référence, je le répète, disponible en ligne sur le site web de Toulouse Métropole, www.metropole.toulouse.fr. N'hésitez pas à le consulter. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.